Donc vous pouvez retrouver, on va retrouver l'épître aux Corinthiens, chapitre 12, qu'on a commencé la semaine dernière. C'est une série de messages sur les Corinthiens qui s'appelle « La gloire de Dieu dans l'Église » et on en est au numéro 4. Alors, le chapitre 12 commence de la façon suivante, avec le verset suivant. Je lis dans la seconde 21. En ce qui concerne les réalités spirituelles, 12 chapitre 1. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance tout ce qui touche les réalités spirituelles. Alors, qui d'entre nous peut-être aspire à ce que sa spiritualité augmente, que l'Esprit de Dieu se manifeste davantage dans sa vie? Est-il possible d'avoir des dons extraordinaires, comme ceux dont l'apôtre Paul parle? Ou bien sommes-nous condamnés à vivre une vie d'être des chrétiens qu'on dirait de seconde catégorie, qui sont là sur le banc de touche? Vous savez, l'équipe de France, il y a 22 joueurs, et puis il y en a 11 sur le terrain, puis il y en a 11 qui sont sur le banc de touche, ils jouent pas, ils sont là, ils regardent. Est-ce que c'est ça, la vie chrétienne? Qu'avons-nous appris la semaine dernière? Dieu se manifeste dans son Église par des dons que le Saint-Esprit accorde, à ses enfants. Tous les dons du Saint-Esprit sont pour le bien commun, pour pouvoir accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Et le Saint-Esprit distribue les dons aux enfants de Dieu comme il lui plaît. Ce sont des grâces imméritées. La façon dont l'apôtre Paul l'exprime, on comprend que tous les frères et sœurs reçoivent un don du Saint-Esprit. Alors on va lire la suite de notre texte. Donc on avance au verset 12. 1 Corinthiens 12, 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Et il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partir du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et si tout entier, et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec le plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'Église est le corps de Christ, donc. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un chrétien, ou qu'un homme, ou qu'une femme appartient au corps de Christ? Alors, le texte est clair, dans notre texte, vous avez vu, il s'agit du baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Le croyant est plongé par le Saint-Esprit et ajouté au corps de Christ, qui est l'Église, au moment même de sa conversion. L'apôtre Paul, il dit qu'il a bu le Saint-Esprit, qu'il est abreuvé du Saint-Esprit, et ça fait penser aux paroles de Jésus, qu'il a prononcées, qu'on trouve au chapitre 7, verset 37 de l'Évangile de Jean. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et qu'ils boivent. Nous avons tous été abreuvés, écrit l'apôtre Paul. Et on peut voir dans cette façon dont nous sommes abreuvés par le Saint-Esprit au moment de notre conversion, c'est une expérience marquante. Et Jésus a ajouté, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Et là, on peut avoir la référence à ces dons qui allaient être accordés aux croyants, les dons du Saint-Esprit. Donc, voilà ce qui fait qu'on appartient au corps de Christ. Je relis les premiers versets. Corps forme un tout, pourtant, n'a pourtant plusieurs organes. Tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même du Christ. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille dit, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? Le corps humain est composé de plusieurs organes. Et le terme organe qui est utilisé ici, parfois vous trouverez le terme membre. Bon, en fait, dans la Bible, s'il y a un mot qui correspond pas en français, quand on parle des membres, on pense aux bras, aux jambes, à ce qui nous permet de bouger, d'agir. Ou bien on pense aux membres des associations. Quand on est une association, on devient membre ou membre d'une partie politique ou je ne sais. Mais le sens dans la Bible est un peu différent. La langue, il est parlé d'un membre. Et on voit ici l'ouïe, l'odorat également. Alors peut-être le mot organe convient mieux. Certaines fois et d'autres fois, c'est le mot membre qu'il faudrait utiliser. Donc là, il y a un petit piège de vocabulaire. Et d'autant plus que dans certaines... traduction, ben vous direz que il est question des membres, par exemple de l'Église de Jérusalem, dans Actes 11:22. En fait, c'est à la traduction à ajouter le mot membre, mais qui n'existe pas dans le grec. Donc, des personnes de l'Église de Jérusalem. Donc tout ça nous peut nous induire en erreur, mais je vais en reparler un petit peu plus tard. L'Église, en tout cas, est composée de plusieurs organes, de plusieurs membres, et donc forcément, nous sommes différents. Et il ne faut pas être surpris qu'on soit si différents dans les attributions que l'on a, dans les capacités que l'on a. Ici, l'apôtre insiste que nous n'ayons pas de sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Hein. Nous ne nous sentions pas inférieurs. Hein. Puisque je ne suis pas humain, je n'appartiens pas au corps. Non, non, ce n'est pas vrai. On appartient quand même au corps, même si on trouve qu'on n'a pas des capacités brillantes comme les autres. Versets 22 à 24. 18 à 21. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Alors, c'est ici qu'il me manquait le mot. Je vais récupérer ici dans ma Bible. L'œil, voilà. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps entier était l'ouïe, où serait l'odorat? Donc, les organes sont disposés dans le cœur par Dieu lui-même. Et si nous avons reçu un don, si nous avons une place dans l'Église, ben c'est Dieu qui l'a choisi et qui l'a voulu ainsi. Qu'as-tu que tu nous aies reçu, écrit l'apôtre Paul dans les Romains. Là, ici, il s'adresse pas à ceux qui ont un sentiment d'infériorité, mais il s'adresse plutôt à ceux qui ont un sentiment d'être supérieur aux autres. Hein? Nul d'entre vous ne peut dire qu'il n'a pas besoin de son frère, même du plus petit, de nos frères ou de nos sœurs. Personne ne peut dire ça. La suite. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons du plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Alors, les parties qu'on considère les moins décentes, je ne sais pas à quelle partie ferait référence l'apôtre. Moi, j'avais une illustration de quand on réfléchit à ce qui nous fait tenir debout. Voilà, là, je suis debout sur mes jambes. On dit je me suis sur mes jambes, et on peut penser les membres qui sont à l'honneur. Là, c'est les jambes. Ce sont elles qui me soutiennent. Ce sont elles qui me permettent de me tenir debout. Mais la médecine nous apprend que les choses ne se passent pas ainsi, ou sont beaucoup plus subtiles que cela. Ce qui me maintient à l'équilibre. Bien sûr, les jambes sont utilisées, mais il y a des organes cachés qui permettent cela. On a trouvé que dans l'oreille, il y avait des tout petits cristaux qui sont en certaines positions et qui sont absolument indispensables pour rester en équilibre. Et les orteils de nos pieds permettent également de contribuer à notre stabilité. Les tout petits orteils, on se demande mais à quoi ils servent. Ben, ils ont un rôle dans le corps. Et ce sont des choses qui sont cachées et qu'on ne voit pas, mais qui sont indispensables. Donc les jambes qu'on voit bouger ou les bras qu'on voit bouger quand on perd l'équilibre, tout ça, en fait, ils sont assujettis à notre cervelet qui reçoit toutes les commandes de tous ces différents organes cachés et qui les commande à notre insu et qui les commande de façon prioritaire. Si nous voulons prendre un objet et que nous voulons le transporter, et voilà, à un moment donné, on va perdre l'équilibre, on va lâcher l'objet pour garder l'équilibre. Les organes que nous avons les plus nobles, ils ont besoin des plus petits organes cachés, qui semblent si insignifiants, mais qui sont indispensables. C'est l'illustration à laquelle j'ai pensé pour nous. Les moindres des organes ont leur fonction. La porte continue. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Comme le corps humain, on forme un tout, l'Église forme un tout. Des fois, on utilise le mot holistique pour décrire le lien qui lie l'âme et le corps humain. Quand le corps est en bonne santé, ben notre état d'esprit va être bon et positif. Et puis, quand on, au contraire, des fois, quand on est, si on est déprimé, si les choses ne vont pas, ben ça va se répercuter sur la santé de notre corps. Ça forme un tout. Et ici, il y a la même idée dans le corps de Christ. Nous sommes dépendants les uns des autres. S'il y a un de nous qui souffre, tous les autres vont souffrir avec lui. Et s'il y en a un qui se réjouit, tous les autres vont se réjouir et sont partagés entre nous. Et l'Église de Jésus forme quelque chose d'un tout. Ça forme un tout. Tous les membres forment un tout. J'aurai quelques réflexions à ce stade sur le don du Saint-Esprit et les capacités naturelles qu'on peut avoir. Peut-être que il y a eu la liste des dons spirituels la semaine dernière, et peut-être que vous reconnaissez pas, vous, dans cette liste de dons spirituels, vous pensez peut-être à vous avez pensé peut-être à la parabole de Jésus qui a dit qu'il avait confié des talents à chacun, des capacités pour les faire valoir, et que vous aimez servir le Seigneur avec vos capacités naturelles, et parce que vous croyez que c'est Dieu qui nous les a données pour qu'on se serve de ces capacités naturelles dans l'Église. Alors, quand on parle de don du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un problème avec moi là? Je me sens pas à ma place là-dedans. Voilà un petit peu la difficulté qu'on peut rencontrer. Alors, on peut réfléchir que l'Église est spirituelle, mais elle est aussi incarnée. On reçoit le baptême du Saint-Esprit, mais aussi on reçoit le baptême d'eau. On reçoit les deux. L'apôtre a dit, quand un membre souffre, l'Église souffre. On n'est pas dans déconnecté de la réalité, hein. On n'est pas dans les choses spirituelles sont réelles, sont physiques aussi. Et l'Église n'est pas déconnectée des choses pratiques, de ce qui se touche, de ce qui se voit. Ça, c'est une première remarque. Si l'Église est spirituelle, elle est aussi incarnée. L'apôtre Paul, dans sa liste qu'on a vue la semaine dernière, dans encore la première partie du chapitre, on la retrouve de façon différente dans l'épître aux Romains. Là, il parlait dans le contexte des Corinthiens. Mais en Romains chapitre 12, on trouve des choses différentes que je vais lire maintenant. Ça va nous aider à y voir plus clair sur le sujet de cette liste de dons spirituels où peut-être on ne se retrouve pas. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la force que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Jusque-là, on pourrait dire, ben ça, c'est voilà, même enseignement que dans les Corinthiens, si ce n'est le ministère, le service. Et là, le service dont il est question, ce sont bien des choses pratiques. C'était servir aux tables, dans le livre des Actes, hein. C'était des choses pratiques. Avançons un petit peu plus loin. Verset 7. Que celui donc qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Verset 8. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Exhorter, c'est aussi consoler et encourager. Alors là, déjà, ça ouvre peut-être des perspectives. Avoir un don pour consoler ou pour encourager. Mais on lit ensuite un peu plus loin. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et là, pour donner, il faut avoir. Pour pouvoir donner, il faut, si c'est donner de l'argent, il faut gagner de l'argent. Et donc, il faut avoir ses capacités de gagner de l'argent. Et l'argent, ce sont des choses, vous en conviendrez, qui sont bien matérielles. Alors, l'apôtre dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et ce mot libéralité veut dire avec simplicité, avec sainteté, sans se voir plus haut que les autres. On a un frère va avoir disposé de beaucoup d'argent parce qu'il a des capacités pour ça. Ah ben, il va les donner. Mais là où l'Esprit Saint intervient, c'est qu'il va donner la possibilité à cette personne de donner avec simplicité de cœur, sans se sentir supérieur aux autres parce qu'il a de l'argent. Et ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit, ça c'est un don de l'Esprit Saint. Le journal Voix dans le désert était soutenu par un frère qui était dans la Champagne. Il est décédé maintenant, il a été soutenu de longues années. C'était un frère qui il avait une exploitation de champagne et il avait beaucoup de revenus, mais il était très très généreux et il était très simple dans la façon dont il donnait ça. C'était, il dit, moi c'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que les choses que Dieu m'a donné, et c'est la chose que je peux faire pour le Seigneur. Donc cette question de la motivation et de la façon dont on met en œuvre les dons naturels que l'on peut avoir. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Pratiquer la miséricorde, être compatissant, avoir de l'empathie pour les personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ne sont pas des croyants, qui ne sont pas dans l'Église et qui vont avoir un élan de compassion quand ils voient quelqu'un qui souffre. Ils vont avoir envie de l'aider, ils vont avoir envie de faire quelque chose. Et il dit, rajouter ici, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Et ça, le faire avec joie, avec gaieté, ça c'est un don de Dieu. Ça c'est un don de Dieu. Ça c'est un don de Dieu, la façon dont on le fait. Un don du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu peut agir à travers différentes choses et de la façon dont il nous met en œuvre nos aptitudes naturelles sont l'œuvre du Saint-Esprit. Une autre remarque, c'est qu'on n'est pas qu'une seule chose dans la vie. Jean-Sébastien Bach était un bar, on dit, pour se faire comprendre des personnes qui ne sont pas francophones. C'était un musicien avec des capacités extraordinaires. Il signait ses partitions Solide au Gloria. Beaucoup de personnes le considèrent comme le plus grand musicien de tous les temps. Mais c'était aussi un époux et un père de famille consacré. On n'est pas qu'une seule chose. René Skin, le missionnaire qui a fondé cette église, il avait 40 ans, il était à la tête d'une entreprise familiale en Irlande. Il vendait des voitures, il réparait les voitures et il était expert dans son domaine. Quand il s'agissait de trouver une panne sur une voiture, il avait des grandes capacités, il avait gagné des concours au niveau national avec cela. Il était aussi ancien dans son église. Et un jour, Dieu, avec son épouse, les a convaincus qu'il fallait qu'ils viennent missionnaires en France. Et donc, à ce moment-là, il a vendu ce qu'il avait, il a confié l'entreprise à son frère, et ils sont venus en France, ici, travailler, et il avait déjà plus de 40 ans. Depuis, quand il est arrivé ici, il n'a plus jamais fait de mécanique auto, c'était fini. Mais il disait, j'ai appris de mon métier à ne pas casser la concurrence pour vendre une voiture. Et c'est la même chose pour la conversion, il répétait souvent. On n'est pas là pour casser les croyances des gens, on est là pour leur présenter Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut faire, c'est leur présenter Jésus-Christ. On peut recevoir plusieurs talents, plusieurs dons, et les exercer de façon différente, à un moment ou à un autre de notre vie. On fait pas qu'une seule chose dans la vie. Alors pour résumer, ce qu'est l'Église, et particulièrement l'Église locale, verset 27, l'apôtre écrit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ce corps est composé d'organes uniques, utiles, unis, solidaires et qui forment un tout. Ces organes ont été insufflés par Dieu, à la fois avec une dimension physique et à la fois avec une dimension spirituelle et connectés. Tous connectés à Jésus-Christ. Le corps de Christ. Regardez ce privilège dans ce mot de l'association de corps et de Christ. Le corps de Christ, ses membres. Je voudrais revenir sur cette question de membres d'association qui peut être ancrée dans notre culture, dans notre façon de voir les choses. Les membres du corps de Christ sont des personnes qui sont choisies. Contrairement aux assos séculières où c'est la personne qui choisit d'adhérer à une association, non, là c'est l'Esprit Saint, le Seigneur qui nous choisit. Et on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est pas comme une carte de membre d'association qu'on va acheter, non. L'Esprit de Dieu, on le reçoit et il est là comme un sceau pour toujours. Pas besoin de renouveler tous les ans. Et tous les membres du corps de Christ portent le même ADN. On est également très variés là où les associations séculières rassemblent des gens qui ont des affinités, qui ont des atomes crochus. Dans l'Église, on rassemble des gens, comme a dit l'apôtre, de toute culture, de tout arrière-plan, des esclaves, des libres, des grecs, des juifs, de toute culture et de tout. L'Église est très variée dans ses membres. Et pourtant, chaque membre est unique. Dans les associations, il y a souvent des personnes qui sont irremplaçables. Elles sont là, on ne peut pas les enlever parce qu'autrement tout se casse la figure. Dans l'Église, non, tout le monde est unique et est désiré par Dieu. Tout le monde est au même niveau. Chaque membre est également lié aux autres. Quand on est dans une association séculière, ah ben voilà, quand on veut partir, on s'en va, on les quitte. Quand on n'est pas content, mais dans l'Église de Jésus, ça se passe pas comme ça. On est liés les uns aux autres. On est ensemble. On forme un tout. Alors, quelles applications pour terminer? Peut-être ça vous lance un défi, tout ça, hein, par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Eh oui, l'Église, se peut-il que l'Église ne puisse pas bien fonctionner sans moi? C'est une bonne question à se poser. Peut-être que la question, mais moi je sais pas quel est mon don, peut-être ça commence à s'éclaircir. ou bien le désir de mettre en œuvre les dons et les capacités se réveille, de les animer par le Saint-Esprit, avec les motivations que Dieu donne. Alors, amen. Il y a des applications communautaires, un pour tous, tous pour un. On n'est pas nombreux, on doit prendre soin les uns des autres. On ne peut pas rentrer dans une logique de profit et de perte. Un de perdu, 10 de retrouvé, pas, il est parti, peu importe. Non, quand une personne manque, elle manquera toujours. Elle manquera toujours. Et l'ensemble du corps donc se trouve en quelque sorte handicapé. Je pense que toutes les églises locales ont des handicaps, sont handicapées par des personnes qui ne sont pas là. Mais heureusement, un handicapé peut faire plein de choses. C'est les Jeux paralympiques à ce moment, et on les voit, ils font des choses que les personnes avec toutes leurs membres et toutes leurs possibilités ne pourraient pas faire. Un handicapé peut faire plein de choses. Pourquoi ? Ben parce que les membres vont compenser, les autres organes vont compenser ce qui manque. Et puis ça va fonctionner quand même. Donc, courage. Même si ce n'est pas les dons, les autres membres, si ce n'est pas les capacités, les autres membres vont faire de leur mieux pour compenser. Ça va fonctionner quand même. Notre application, c'est qu'il faut se sortir de cette idée que le fonctionnement de l'Église est l'affaire des responsables. Même si ils peuvent avoir un rôle important ou majeur, l'apôtre en parle après, mais c'est une idée qui est fausse. L'Église a besoin de tout le monde pour fonctionner, et du plus petit. Celui qui se voit le plus petit même, celui-là, il est nécessaire. Et les frères et sœurs, on peut avoir conscience de ça. Vous savez, l'image que donne Jésus avec cette pauvre veuve qui met la petite pièce dans le tronc et qui dit, elle a donné plus que tous les autres. Et pourtant, elle pouvait se sentir, elle, complètement insignifiante. Pourtant, aux yeux de Dieu, voilà, c'était la personne par lequel la bénédiction allait arriver, parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et voilà. Donc, l'Église a besoin de tous ses membres. Hein. Donc, bien sûr, on n'a pas fait encore le tour du sujet, ni l'apôtre, il n'est pas à la fin de sa lettre, on n'est pas non plus à la fin du chapitre. On va voir la semaine prochaine quand il va parler de l'organisation de l'Église. Et il va également chercher à encourager, à chercher les meilleurs dons. Ah, donc il y a une possibilité de faire des progrès en quelque sorte, hein, de ce côté-là aussi. Et il va nous apprendre à l'état d'esprit dans lequel il faut le faire. Alors, amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette Église magnifique. Combien elle est belle, Seigneur, avec toutes ces personnes qui viennent d'horizons tellement différents, qui sont d'âges différents, de cultures différentes, de capacités différentes, mais qui sont là tous ensemble, qui s'aiment, qui te servent, qui mettent ce qu'ils ont en commun pour te servir, chacun mettant au service des autres et au service des non-croyants les dons que tu lui as accordés, Seigneur. Merci, parce que tu fais pas les choses comme les hommes les voient. Et toi-même, tu as réparti les choses comme tu le trouvais bon et comme ça t'était agréable à toi. Et tant pis, s'il y en a qui pensent que c'est pas bien fait, c'est toi qui le fais. Ainsi, et tu as toujours raison, tu fais toujours toutes choses à merveille. Merci, parce que tu nous as créés en tant qu'individus. Tu nous as aussi créés ton Église, et tu as dit ce sera le corps de Christ, et tu nous as placés à l'intérieur, Seigneur. Merci de ce grand privilège que tu nous as fait, de cette grande responsabilité que nous avons devant toi, devant le Seigneur et devant nos frères et sœurs. Quelle chance nous allons
que nous avons de pouvoir être, avoir été incorporés dans cette grande famille, dans cette grande construction, dans ce corps, le corps du Christ, Seigneur. Sois béni, aide-nous à prendre conscience des choses, à relever des défis. On a tous notre chemin, chacun à parcourir, Seigneur. Et merci parce qu'on peut s'encourager mutuellement les uns les autres. Et c'est très beau. Par Jésus. Amen. Amen.